Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans le cadre de Lectures en liberté, nous reprenons donc la lecture de L'écume des jours de Boris Vian. Ce pâté d'anguille est remarquable, dit Chic. Qui t'a donné l'idée de le faire ?
C'est Nicolas qui en a eu l'idée, dit Colin.
Il y a une anguille, il y avait plutôt, qui venait tous les jours dans son lavabo par la conduite d'eau froide.
C'est curieux, dit Chic, pourquoi ça ?
Elle passait la tête et vidait le tube de pâte dentifrice en appuyant dessus avec ses dents.
Nicolas ne se sert que de pâte américaine à l'ananas, et ça a dû la tenter.
Comment l'a-t-il prise ? Demanda Chic. Il a mis un ananas entier à la place du tube. Quand elle avalait la pâte, elle pouvait déglutir et rentrer sa tête ensuite, mais avec l'ananas, ça n'a pas marché. Et plus elle tirait, plus ses dents entraient dans l'ananas.
Nicolas... Colin s'arrêta.
« Nicolas quoi ?» dit Chic.
« J'hésite à te le dire, ça va peut-être te couper l'appétit. »«
Va donc, » dit Chic. « Il ne me reste presque plus. »
Nicolas est entré à ce moment-là et lui a sectionné la tête avec une lame de rasoir. Ensuite, il a ouvert le robinet et tout le reste est venu.
« C'est tout ?» dit Chic.
« Redonne-moi du pâté. J'espère qu'elle a une nombreuse famille dans le tuyau. »
Nicolas a mis de la pâte à la framboise pour voir, dit Colin. Mais dis-moi, c'est à Lise dont tu lui parlais.
Je l'envisage en ce moment, dit Chic. Je l'ai rencontrée à une conférence de Jean Sol.
Nous étions tous les deux à plat ventre sous l'estrade et c'est comme ça que je l'ai connue.
Comment est-elle ?
Je ne sais pas décrire, dit Chic.
Elle est jolie.
Ah, dit Colin.
Nicolas revenait. Il portait la dinde.
Asseyez-vous donc avec nous, Nicolas, dit Colin. Après tout, comme disait Chic, vous êtes presque de la famille.
Je vais d'abord m'occuper des souris, si monsieur n'y voit pas d'inconvénient, dit Nicolas.
Je reviens, la dinde est découpée, la sauce est là.
Tu vas voir, dit Colin, c'est une sauce à la crème de mangue et aux genièves, cousue dans des paupiettes de veau tissé. Tu presses dessus et ça sort en filet.
« En supérieur !» dit Chic.
« Tu ne voudrais pas me donner une idée de la façon dont tu t'y es pris pour entrer en relation avec elle ?» poursuivit Colin.
« Eh bien, dit Chic, je lui ai demandé si elle aimait Jean Solpartre.
Elle m'a dit qu'elle faisait collection de ses œuvres, alors je lui ai dit « moi aussi ». Et chaque fois que je lui disais quelque chose, elle répondait « moi aussi » et vice-versa. Alors, à la fin... Juste pour faire une expérience existentialiste, je lui ai dit « Je vous aime beaucoup ». Et elle a dit « Oh !»
L'expérience avait raté, dit Colin.
« Oui, dit Chic. Mais elle n'est pas partie tout de suite, alors j'ai dit « Je vais par là ». Et elle a dit « Pas moi ». Et elle a ajouté « Moi, je vais par là ».
« C'est extraordinaire !» assura Colin.
« Alors j'ai dit « Moi aussi », dit Chic.
Et j'ai été partout où elle a été. »
Comment ça s'est-il terminé ? Dit Colin.
Dit Chic, c'était l'heure d'aller au lit.
Colin s'étrangla et but un demi-litre de Bourgogne avant de se remettre.
Je vais à la patinoire avec elle demain, dit Chic. C'est dimanche. Tu viens avec nous ?
Nous choisissons le matin pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Ça m'ennuie un peu, remarqua-t-il, parce que je patine mal, mais nous pourrons parler de Partre.
J'irai, promis Colin, j'irai avec Nicolas, il a peut-être d'autres nièces.
Colin descendit du métro puis remonta les escaliers. Il émergea dans le mauvais sens et contourna la station pour s'orienter. Il prit la direction du vent avec un mouchoir de soie jaune et la couleur du mouchoir emporté par le vent se déposa sur un grand bâtiment de forme irrégulière qui prit ainsi l'allure de la patinoire Molitor. Vers lui, c'était la piscine d'hiver. Il la dépassa et par la face latérale pénétra dans cet organisme pétrifié en traversant un double jeu battant de portes vitrées à barres de cuivre. Il tendit sa carte d'abonnement qui fit un clin d'œil au contrôleur à l'aide de deux trous déjà perforés. Le contrôleur répondit par un sourire complice, n'en ouvrit pas moins une troisième brèche dans le Bristol orange et la carte fut aveugle. Colin la remit sans scrupule dans son porte-cuir en feuille de Russie et prit à gauche le couloir tapis de caoutchouté qui desservait les rangées de cabines. Il n'y avait plus de place au rez-de-chaussée. Il monta donc l'escalier de béton, croisant des êtres grands, car montés sur lames métalliques verticales, qui s'efforçaient à des cabrioles d'allure naturelle, malgré l'empêchement évident. Un homme à chandail blanc lui ouvrit une cabine, encaissa le pourboire, qui lui servirait pour manger, car il avait l'air d'un menteur, et l'abandonna dans cette impasse, après avoir, d'une craie négligente, tracé les initiales du client sur un rectangle noirci disposé à cet effet à l'intérieur de la cabine. Colin remarqua que l'homme n'avait pas une tête d'homme, mais de pigeon, et ne comprit pas pourquoi on l'avait affecté au service de la patinoire plutôt qu'à celui de la piscine. Il montait de la piste une rumeur ovale que la musique des haut-parleurs, disséminée tout autour, rendait complexe. Le piétinement des patineurs n'atteignait pas encore le niveau sonore des moments d'affluence où il présente une analogie avec le bruit des pas d'un régiment dans de la boue giclant sur du pavé. Colin cherchait des yeux à Lise et Chic, mais il ne paraissait pas sur la glace. Nicolas devait le rejoindre un peu plus tard. Il avait encore affaire à la cuisine pour préparer le repas de midi. Colin défit les lacets de ses chaussures et s'aperçut que les semelles étaient parties. Il tira de sa poche un rouleau de taffetas gommé, mais il n'en restait pas assez. Il disposa alors les chaussures dans une petite mare qui s'était formée sous la banquette de ciment et les arrosa d'engrais concentrés afin que le cuir repousse. Il enfila une paire de chaussettes de laine à larges bandes jaunes et violettes alternées et mit ses souliers de patinage. La lame de ses patins se divisait en deux vers l'avant pour lui permettre des changements de direction plus aisés. Il sortit, redescendit un étage. Ses pieds se tordaient un peu sur les tapis de caoutchouc perforés qui garnissaient les couloirs bétonnés. Au moment de se hasarder sur la piste, il dut remonter en toute hâte les deux marches de bois pour éviter de choir. Une patineuse, à la fin d'un magnifique grand aigle, venait de laisser tomber un gros œuf qui se brisa contre les pieds de Colin. Pendant qu'un des varlets nettoyeurs venait en ramasser les fragments épars, Colin aperçut Chic et Alice qui aboutissaient à la piste de l'autre côté. Il leur fit un signe qu'ils ne virent pas et s'élança à leur rencontre, mais sans tenir compte du mouvement giratoire. Il en résulta la formation rapide d'un considérable amas de protestants auxquels vinrent s'agglutiner de seconde en seconde des humains qui battaient l'air désespérément de leurs bras, de leurs jambes, de leurs épaules et de leur corps entier avant de s'effondrer sur les premiers chutes. Le soleil avait fait fondre la surface. Ça clapotait en dessous du tas. En peu de temps, les 9/10 des patineurs étaient rassemblés là, et Chic et Alice disposaient de la piste pour eux seuls, ou à peu près. Ils s'approchèrent de la masse grouillante, et Chic, reconnaissant Colin à ses patins bifides, l'extirpa de l'ensemble en le saisissant par les chevilles. Ils se serrèrent la main. Chic présenta Alice, et Colin se mit à la gauche de celle-ci, dont Chic occupait déjà le flanc dextre. Ils se rangèrent en arrivant à l'extrémité droite de la piste pour laisser place aux Varlets nettoyeurs qui, désespérant de retrouver dans la montagne de victimes autre chose que des lambeaux sans intérêt d'individualité dissociée, s'étaient munis de leurs raclettes pour éliminer le total des allongés et fonçaient vers le trou à raclure en chantant l'hymne de Molitor, composé en 1709 par Vaillant Couturier et qui commence ainsi « Messieurs et mesdames, veuillez évacuer la piste, s'il vous plaît, pour permettre de procéder au nettoyage. » Le tout, ponctué de coups de klaxon destinés à entretenir au fond des âmes les mieux trempées, un frisson d'incoercible terreur. Les patineurs encore debout applaudirent à cette initiative et la trappe se referma sur l'ensemble. Chic, Alice et Colin firent une courte prière et reprirent leur agitation. Colin regardait Alice. Elle portait par un hasard étrange un sweatshirt blanc et une jupe jaune. Elle avait des souliers blancs et jaunes et des patins de hockey. Elle avait des bas de soie fumés et des sockets blanches, repliés sur le haut des chaussures à peine montantes et lacées de coton blanc, faisant trois fois le tour de la cheville. Elle comportait en outre un foulard de soie vert vif et des cheveux blonds extraordinairement touffus, encadrant son visage d'une masse frisée serrée. Elle regardait au moyen d'yeux bleus ouverts, et son volume était limité par une peau fraîche et dorée. Elle possédait des bras et des mollets ronds, une taille fine et un buste si bien dessiné que l'on eût dit une photographie. Colin se mit à regarder de l'autre côté pour retrouver son équilibre. Il y parvint et, baissant les yeux, demanda à Chic si le pâté d'anguille était passé sans encombre.
Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un Beaujolais vrai de vrai, un hectare de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris, devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des vins. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là, on a trépassé le soir même et voilà. On se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est temps, encore temps, on peut finir par obtenir déménagement.
Et donc, après cette pause musicale,
avec un texte de Boris Vian, bien sûr. Nous revenons à la lecture de L'écume des jours.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Voilà Nicolas, s'écria Alice. Et voilà Isis, dit Chic. Nicolas venait d'apparaître au contrôle et Isis sur la piste. Le premier se dirigea vers les étages supérieurs, la seconde vers Chic, Colin et Alice. « Bonjour Isis, dit Colin. Je vous présente Alice. Alice, c'est Isis, vous connaissez Chic. » Il y eut du serrage de main. Et Chic en profita pour filer avec Alice, laissant Isis au bras de Colin, lesquels démarrèrent à la suite. « Je suis contente de vous voir, dit Isis. » Colin était content de la voir aussi. Isis, en 18 ans d'âge, était parvenue à se munir de cheveux châtains, d'un sweatshirt blanc et d'une jupe jaune avec un foulard vert acide, de chaussures blanches et jaunes et de lunettes de soleil. Elle était jolie. Mais Colin connaissait très bien ses parents. « Il y a une matinée chez nous la semaine prochaine, dit Isis. C'est l'anniversaire de Dupont. »« Qui, Dupont ? Mon caniche ! Alors j'ai invité tous les amis. Vous viendrez ? À 4 heures. » Oui, dit Colin, très volontiers. Demandez à vos amis de venir aussi, dit Isis. Chic et Alice ? Oui, ils sont gentils. Alors, à dimanche prochain. Vous partez déjà, dit Colin ? Oui, je ne reste jamais très longtemps, je suis déjà là depuis 10 heures, vous savez, tout de même. Il n'est que 11 heures, dit Colin. J'étais au bar. Au revoir. Colin se hâtait par les rues lumineuses. Il soufflait un vent sec et vif, et sous ses pieds de petites places de glace craquelées s'écrasaient en crépitant. Les gens cachaient leurs mentons dans ce qu'ils pouvaient trouver, leur col de par-dessus, leur foulard, leur manchon. Il en vit même un qui employait à cet usage une cage à oiseaux en fil de fer, dont la porte à ressort lui appuyait sur le front. « Je vais demain chez les Pontosanes, » pensait Colin. C'étaient les parents d'Isis. « Je dîne ce soir avec Chic. Je vais rentrer chez moi, me préparer pour demain. » Il fit un grand pas pour éviter une raie du bord du trottoir qui paraissait dangereuse. « Si je peux faire 20 pas sans marcher dessus, » dit Colin, « je n'aurai pas de bouton sur le nez demain. » « Ça ne fait rien, » dit-il, en écrasant de tout son poids la 9e raie. « C'est idiot, ces trucs-là. Je n'aurai pas de bouton quand même. » Il se baissa pour cueillir une orchidée bleue et rose que le gel avait fait sortir de terre. Elle sentait le parfum des cheveux d'Alice. « Je verrai Alice demain. » C'était une pensée à éviter. Alice appartenait à Chic de plein droit. « Je trouverai certainement une fille demain. » Mais ses pensées s'attardaient sur Alice. « Est-ce qu'il parle vraiment de Jean-Saul Partre lorsqu'ils sont tout seuls ?» Il valait peut-être mieux aussi ne pas penser à ce qu'il faisait lorsqu'ils étaient tout seuls. « Combien Jean-Saul Partre a-t-il écrit d'articles depuis 1 an ?» De toute façon, il ne lui restait pas le temps de les compter jusque chez lui. Qu'est-ce que Nicolas va faire pour ce soir ? À bien y réfléchir, la ressemblance d'Alice et de Nicolas ne présentait rien d'extraordinaire puisqu'ils étaient de la même famille. Mais ça ramenait en douce au sujet défendu. Qu'est, dis-je, ce que Nicolas va faire pour ce soir ? Je ne sais pas ce que Nicolas, qui ressemble à Alice, va faire pour ce soir. Nicolas a 11 ans de plus qu'Alice. Ça lui fait 29 ans. Il est très doué pour la cuisine. Il va faire du fricando. Colin approchait de sa demeure. Les boutiques des fleuristes n'ont jamais de rideau de fer. Personne ne cherche à voler les fleurs. Cela se comprenait assez. Il cueillit une orchidée orange et grise dont la corolle délicate fléchissait. Elle brillait de couleur diaprée. Ah, elle a la couleur de la souris à moustache noire. Je suis arrivé chez moi. Colin monta l'escalier de pierre habillé de laine. Il introduisit dans la serrure de la porte de glace argentée une petite clé d'or. « À moi, mes fidèles serviteurs, car me voici de retour !» Il lança son imperméable sur une chaise et s'en fut rejoindre Nicolas. Je mettrai mon complet beige avec ma chemise bleue et ma cravate beige et rouge et mes souliers à daim piqûre et des chaussettes rouges et beige. Je vais d'abord m'abluter et me raser et me vérifier. Et je vais demander dans sa cuisine à Nicolas « Nicolas, voulez-vous venir danser avec moi ?»« Mon Dieu, dit Nicolas, si monsieur me le demande avec insistance, j'irai, mais dans le cas contraire, je serai heureux de pouvoir régler quelques affaires dont l'urgence se fait impérative. » Il est indiscret, Nicolas, de vous pousser plus à fond. « Je suis, dit Nicolas, président du cercle philosophique des gens de maison de l'arrondissement et par suite astreint à une certaine assiduité aux réunions. »« Je n'ose, Nicolas, vous demander le thème de la réunion d'aujourd'hui. » »« Il y sera parlé de l'engagement. Un parallèle est établi entre l'engagement d'après les théories de Jean Solpartre, l'engagement ou le rengagement dans les troupes coloniales et l'engagement ou prise à gage des gens dits de maison par des particuliers. » Voilà qui est très intéressant. Et qui intéresserait beaucoup Chic, dit Colin. Il est malheureusement regrettable, dit Nicolas, que le cercle soit très fermé. Monsieur Chic n'y pourrait être admis. Seuls les gens de maison. Pourquoi, Nicolas, demanda Colin, emploie-t-on toujours le pluriel ? Monsieur remarquera sans doute, dit Nicolas, que homme de maison reste anodin, mais que femme de maison prend une signification notoirement agressive. Vous avez raison, Nicolas. À votre avis, dois-je rencontrer l'âme sœur aujourd'hui ? Je voudrais une âme sœur du type de votre nièce. Monsieur a tort de penser à ma nièce, dit Nicolas, puisqu'il appert des événements récents que Monsieur Chic a fait son choix le premier. Mais Nicolas, dit Colin, j'ai tant envie d'être amoureux. Une fumée légère s'échappa du bec de la bouilloire et Nicolas alla ouvrir. Le concierge montait de lettres. Il y a du courrier, dit Colin. « Je m'excuse, monsieur, dit Nicolas, mais les deux sont pour moi. Monsieur attend-il des nouvelles ?»« Je voudrais qu'une jeune fille m'écrivît, dit Colin. Je l'aimerais beaucoup. » »« Il est midi, conclut Nicolas. Monsieur désirera-t-il son petit déjeuner ? Il y a de la queue de bœuf broyée et un bol de punch aux aromates avec croûtons beurrés d'anchois. » Nicolas, pourquoi Chic ne veut-il pas venir déjeuner avec votre nièce, à moins que je n'invite une autre jeune fille ? Monsieur m'excusera, dit Nicolas, mais j'en ferai autant. Monsieur est certainement assez beau garçon. Nicolas, dit Colin, si ce soir je ne suis pas amoureux pour de vrai, je collectionnerai les œuvres de la duchesse de Beauvoir pour faire pièce à mon ami Chic. « Je voudrais être amoureux, » dit Colin. « Tu voudrais être amoureux. Il voudrait, idem, être amoureux. Nous, vous, voudrions, voudriez être, il voudrait également tomber amoureux. » Il nouait sa cravate devant le miroir de la salle de bain. « Il me reste à mettre ma veste et mon manteau et mon foulard et mon gant droit et mon gant gauche et pas de chapeau pour ne pas me décoiffer. Qu'est-ce que tu fais là ?» Il interpellait la souris grise à moustache noire, qui certainement n'était pas à sa place dans le verre à dents, même accoudée au bord du divan et prenant un air détaché. « Suppose, » dit-il à la souris, en s'asseyant sur le rebord de la baignoire rectangulaire d'émail jaune. « Suppose que je trouve chez les Pontosanes mon vieil ami Chose. » La souris acquiesça. « Suppose, pourquoi pas, qu'il ait une cousine. Elle serait vêtue d'un sweat-shirt blanc, d'une jupe jaune et elle s'appellerait Onésime. » La souris se croisa les pattes et parut surprise. Ce n'est pas un joli nom, dit Colin, mais toi qui es une souris, et tu as bien de la moustache. Alors ? Il se releva. Il est déjà 3 heures. Tu vois, tu me fais perdre mon temps, Chic, et Chic y sera certainement très tôt. Il suça le doigt et l'éleva au-dessus de sa tête. Il le redescendit presque aussitôt. Ça le brûlait comme dans un four. Il y a de l'amour dans l'air, conclut-il. Ça chauffe. Je me lève, tu te... Il se lève, nous, vous, ils, levons, lever, lève. Tu veux sortir du verre ? La souris prouva qu'elle n'avait besoin de personne en sortant toute seule et en se taillant un morceau de savon en forme de sucette. « N'en colle pas partout, dit Colin. Ce que tu es gourmande !» Il sortit, passa dans sa chambre et mit sa veste. Nicolas a dû partir, il doit connaître des filles extraordinaires. On dit que les filles d'Auteuil entrent chez les philosophes comme bonnes à presque tout faire. Il ferma la porte de sa chambre. « La doublure de ma manche gauche est un petit peu déchirée, je n'ai plus de Chatterton, tant pis, je vais mettre un clou. » La porte claqua derrière lui, avec le bruit d'une main nue sur une fesse nue. Ça le fit tressaillir. « Je veux penser à autre chose. Supposons que je me casse la gueule dans l'escalier. » Le tapis de l'escalier, mauve très clair, n'était usé que toutes les 3 marches. En effet, Colin descendait toujours 4 à 4. Il se prit les pieds dans une tringle nickelée et se mélangea à la rampe. « Ça m'apprendra à dire des conneries. C'est bien fait, je, tu, suis, est-il bête ?» Il avait mal au dos. Il comprit pourquoi en arrivant en bas et retira une tringle d'air entière du col de son par-dessus. La porte extérieure se referma sur lui avec un bruit de baiser sur une épaule nue. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette rue ? Il y avait au premier plan 2 terrassiers qui jouaient à la marelle. Le ventre du plus gros sautait à contre-temps de son propriétaire. Pour palais, il se servait d'un crucifix peint en rouge auquel manquait la croix. Colin les dépassa. À droite, à gauche, s'élevaient de belles constructions de torchis avec des fenêtres à guillotine. Une femme se penchait à une fenêtre. Colin lui envoya un baiser et elle lui secoua sur la tête la descente de lit en molleton noir et argent que son mari n'aimait pas. Des magasins égayaient l'aspect cruel des grands immeubles. Un étalage de fournitures pour fakir retint l'attention de Colin. Il nota la hausse des prix du verre en salade et des clous à rembourrer par rapport à la semaine passée. Il croisa un chien et 2 autres personnes. Le froid retenait les gens chez eux. Ceux qui réussissaient à s'arracher à sa prise y laissaient des lambeaux de vêtements et mouraient d'angine. L'agent au carrefour avait caché sa tête dans sa pèlerine. Il ressemblait à un grand parapluie noir. Des garçons de café faisaient une ronde autour de lui pour se réchauffer. 2 amoureux s'embrassaient sous un porche. Je ne veux pas les voir, je ne veux pas les voir, ils m'embêtent. Colin traversa la rue. 2 amoureux s'embrassaient sous un porche. Il ferma les yeux et se mit à courir. Nous avons donc terminé pour aujourd'hui la lecture de L'écume des jours de Boris Vian, que nous reprendrons demain. Bonsoir à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.